Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il est des sujets rarement abordés par les artistes, l'argent par exemple. Mais parler argent, ce n'est pas répréhensible, et en l'occurrence, c'était intéressant dans le Parti pris qui suit, émission dans laquelle Jacques Pogam recevait Henri Cueco le 29 mars 1978 sur France Culture. La cote des artistes, l'argent dans la cité, cet argent qui contribue à isoler l'art dans les ghettos, l'accélération des ventes, la comédie en jeu, bref, le peintre et les marchands.
Cueco, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est non seulement parce que vous êtes c'est toujours difficile de dire ce genre de choses, surtout lorsque l'intéressé est présent, mais l'un des grands peintres vivants d'aujourd'hui en France, et puis aussi parce que vous avez sur votre métier, la façon de l'exercer, sa place dans la société, des idées très personnelles que vous mettez en œuvre vous-même, ce qui est après tout assez rare dans le monde où nous sommes. Alors, rentrons tout de suite, si vous le voulez, dans le vif du sujet. Prenons l'exemple d'une lithographie. Entre le prix auquel vous cédez une lithographie à un marchand et le prix auquel cette lithographie est vendue, quel est le taux multiplicateur?
Si on travaille avec un éditeur qui a la vocation de diffuser les œuvres à l'étranger, les multiples opérations qui consistent à chaque fois à faire le saut, comme on dit dans le monde commercial, font que le multiplicateur est généralement 5. C'est-à-dire qu'à partir d'un prix de revient de l'objet fini au départ, il arrive multiplié par 5 à l'arrivée. Mais chacune de ces étapes est naturellement justifiable. Je veux dire que c'est un système qui est à mettre en cause, ce ne sont pas les gens.
Oui, mais est-ce qu'à chacune de ces étapes, le pourcentage de bénéfices tiré par l'intermédiaire...
Ben, les intermédiaires, aujourd'hui les marchands, que ce soit les marchands d'estampes ou les marchands de tableaux, sont dans une période extrêmement difficile et il est un peu démagogique de les attaquer. J'ai pas envie de les défendre non plus, mais je voudrais pas apparaître comme le gros simple méchant loup qui dit que tout ça est fini. Ils ont eu un rôle à jouer, ils le jouent sans doute encore. Et pour le moment, je ne vois pas au niveau de l'institution qui pourrait les remplacer.
Vous dites, c'est un marché qui est dans une situation très délicate. Des formules comme le 1% André Malraux n'ont pas réussi à lui donner plus de vues.
Le 1%, c'est avant André Malraux. Le 1%, c'est 1% de la partie subventionnée des bâtiments publics et particulièrement des écoles. Et c'est un principe qui a été adopté en 1936, avec le souci d'aider... les artistes. Aujourd'hui, le 1% a été pratiqué dans la plupart des écoles, et comme le nombre d'écoles en construction a tendance à diminuer, on a tendance à chercher d'autres situations pour placer le 1%. Alors ce 1% serait en principe étendu à tous les bâtiments administratifs dans un avenir X. Aujourd'hui, il est déjà étendu aux casernes de pompiers, aux casernes de gendarmerie, et aux casernes, tout court, aux casernes
militaires,
ce qui n'est pas sans problème. Non, ça ne m'est pas arrivé. Ça me poserait d'ailleurs des problèmes autres que picturaux.
Vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas jouer les grands méchants loups. Vous avez vous-même essayé de mettre en œuvre des formules nouvelles de distribution.
Non, c'est-à-dire que je pense que lorsqu'on veut faire apparaître les inconvénients d'un système, le meilleur moyen de le faire est de mettre en place ou d'expérimenter à côté un autre système. C'est-à-dire que l'alternative soit pas simplement une chose écrite, une proposition purement idéologique, mais déjà une amorce de mise en pratique. Et j'ai essayé d'éditer, il y a déjà quelques années, vers les années 70, des lithographies, en augmentant le tirage, en gardant la qualité du procédé et en l'étirant chez celui qui était considéré comme un des meilleurs éditeurs à Paris, qui était Fernand Mourlot, et en faisant donc un objet, un produit de grande qualité, sans discrimination sur le plan de la qualité.
C'est-à-dire que le nombre, le tirage, par exemple,
le nombre passait de l'ordre de la centaine pour un tirage limité à l'ordre du millier. Et au lieu de diffuser les lithographies en calculant le prix sur une plus-value artistique, c'est-à-dire je me contentais de faire une opération comme on le fait pour un objet quelconque qui est fabriqué dans l'industrie.
Mais qualité du papier était...
Alors, le papier était de moins bonne qualité, c'est un fait. C'est la seule chose. Mais elle est importante, il est vrai. Mais je l'ai signé, et je les signe encore d'ailleurs, et nous les vendions au départ, je dis nous parce qu'il a fallu trouver des diffuseurs militants, disons du secteur culturel, des gens qui étaient animateurs ou s'occupaient de théâtre, car la première de ces images a accompagné une pièce de théâtre.
Oui, c'était un programme.
C'était une sorte de programme sans texte.
Et vous l'aviez...
La pièce s'appelait la Carmagnole des Congres de Louis Fouché. Elle était mise en scène par Pierre Telemann. Elle circulait dans le Nord et on vendait à l'entracte une lithographie à 5 francs.
De Cueco.
Voilà. Aujourd'hui, elle se vend 20 francs compte tenu des différentes augmentations, mais il y en a de moins en moins parce que j'ai épuisé la diffusion de ces images. Et puis, je me suis rendu compte de l'intérêt relatif de ce genre.
Oui, alors déjà, sur le plan de la distribution, ça ne pouvait pas être repris par les galeries.
Ça ne peut pas fonctionner. Les galeries ne peuvent pas le reprendre. Elles ont la même difficulté à vaincre le barrage culturel qui existe pour les œuvres en général. Naturellement, elles préfèrent le faire sur une œuvre vendue à son prix normal. Si elles vendent des lithos, le prix normal d'une litho est de 500 francs. En ce qui me concerne, ça varie naturellement selon la cote de l'artiste, puisque le terme existe. Et elle préfère vendre, avec les mêmes difficultés, le même travail, 500 francs plutôt que 20 francs. Tout le monde réagirait de la même manière.
Alors, il y a cette tentative que vous avez faite, et vous avez également cherché à faire quelque chose dans le domaine du prêt des œuvres.
Oui, écoutez, vous dites beaucoup de choses en me les attribuant. Et
ceux qui l'ont fait.
Obligé de dire, vous avez dit au début que j'étais un grand artiste vivant, que je sois vivant, j'accepte volontiers. Puisque nous parlons en direct, mais le fait d'avoir fait toutes ces choses-là seul, non. Je veux dire que ce sont des manifestations qui existent un petit peu partout. Beaucoup de peintres se sont posés aujourd'hui des problèmes pour sortir du ghetto de la galerie. Et puis pour faire en sorte que le système de diffusion ne soit pas dépendant du seul système marchand, lequel est dépendant du marché économique en général. C'est ça le drame.
Et lequel est dépendant de toute une armature socioculturelle.
Toute une armature socioculturelle, mais une armature économique.
On y reviendra, ça.
On y reviendra, bien sûr. Mais je crois que la galerie de prêt, par exemple, s'est présentée vers les années 60 comme une alternative à l'absence total de clientèle en France, compte tenu qu'après 60, les Américains avaient déserté le marché français. Il y a eu un krach boursier aux États-Unis en 60. Les valeurs françaises étaient des valeurs très élevées sur le marché. Elles ont reflué très rapidement vers les marchands. Et c'était la période, vous le savez, où l'Amérique prenait conscience de son autonomie et de sa valeur sur le plan artistique, puisque de nouveaux courants venaient d'y apparaître, l'action painting, un peu plus tard le pop art. Ensuite, la politique de l'Europe, et en particulier la politique gaulliste, était une politique qui marquait très nettement la différence avec les États-Unis. Et il y a eu un boycott des valeurs françaises, donc un boycott du marché français. Et du jour au lendemain, ce marché français, qui était à 80% alimenté par des capitaux américains, je parle du marché de l'art, s'est trouvé totalement réduit à sa clientèle européenne et française, qui était de l'ordre de 20%. Alors, à ce moment-là, les peintres, les artistes ont découvert, comme c'est souvent le cas, les vertus de l'action culturelle. Alors nous nous sommes mis à inventer d'autres solutions et à devenir conscients des difficultés de la diffusion.
Mais en ce qui concerne les prêts, nous sommes allés chercher notre inspiration quelque part, là.
Alors, la galerie de prêts, elles existent dans d'autres pays, elles existent dans les pays nordiques. Et la première galerie de prêt faite en France a été faite par Marc Netter, qui a été d'ailleurs animateur à la Maison de la Radio ici pendant pas mal de temps. Et Marc Netter avait monté cette galerie de prêt en direction du public en général.
C'était au Havre, non ?
C'était au Havre, à la Maison de la Culture du Havre. Et en s'occupant de la Maison de la Culture de Grenoble, quelques années après, je me suis rendu compte de la limite de l'expérimentation. Un peu comme avec mes lithographies, ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'illusion que le simple fait de la mise en contact ou le simple fait de diminuer la barrière matérielle va être l'élément déterminant pour que le courant passe, on se rend compte très rapidement qu'on se heurte à une limite extrêmement basse, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on a appelé l'idéologie du contact, l'angélisme culturel des classes non cultivées, sont des rêves, et que les gens non cultivés, qui n'accèdent pas par ailleurs à la culture, ou qui ne sont pas en situation d'accéder à la culture pour des raisons les plus diverses, qui sont socioculturelles, comme vous le disiez, eh bien n'y accèdent pas. Moi, je me souviens de cette anecdote très frappante pour moi, lorsque je vivais en Corrèze, dans le centre de la France, j'utilisais très fréquemment un ami qui me donnait des petits coups de main pour m'aider à faire mes châssis, parce qu'il était plus habile que moi pour la menuiserie. Et un jour, je lui ai proposé, cet ami était un ouvrier, un vrai ouvrier, n'est-ce pas ? Et je lui ai proposé de lui offrir un tableau, je trouvais ça tout à fait naturel, et il m'a dit « surtout pas ». Il m'a dit « surtout pas », il était très honnête, il m'a dit « surtout pas ». D'abord, ma femme n'en voudrait pas, et ensuite, que diraient les amis ? C'est-à-dire, on touchait là tout un ensemble d'attitude et de comportement que le simple fait de faire baisser la barrière culturelle, et là c'était la gratuité absolue, montre que ça ne suffit pas.
Donc le problème essentiel du marché de l'art ou de l'art dans un pays comme le nôtre, ça n'est pas l'argent et ça n'est pas la suppression des barrières de contact.
On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire que ça n'est pas l'argent. L'argent fait partie du problème. Il est évident que l'argent contribue à isoler l'art dans le ghetto, puisque dès que l'art est pris par le marché, il devient marchandise, il obéit à des phénomènes et à des lois de spéculation. Aujourd'hui, il est largement dépendant du nouveau fonctionnement du capital, puisque pendant longtemps, on a eu affaire à des galeries à capitalisation lente, si vous voulez, c'est-à-dire les marchands achetaient des tableaux, je pense à Durand-Ruel à la fin du siècle dernier, ou au début du siècle, achetaient des tableaux, faisaient des investissements qui donnaient des résultats à 20 ans ou à 30 ans. Aujourd'hui, on fait des galeries avec des capitaux qui circulent à une vitesse foudroyante, un peu comme circulent les capitaux dans le système des multinationales. Et au passage, on évacue tout simplement quoi ? L'art et les artistes, puisqu'il s'agit de faire cavaler des courants. Un courant vient en détruire un autre, en épuise un autre. Et donc, on ne peut pas dire que le problème économique soit absent de la question.
Vous voulez dire qu'on vous vend comme on vend dans des lessives ou des... On renouvelle les produits, enfin, vous êtes...
Absolument, oui. Absolument.
Donc, enfin, lorsqu'un
absolument,
courant
se substitue... Ça n'est jamais aussi simple. Lorsqu'on veut réduire le marché de l'art au fonctionnement de toute marchandise, on est toujours simplificateur à l'excès et on commet des erreurs. Mais il est vrai que l'accélération de la vente produit cet effet. Les marchands font que des courants se bousculent les uns après les autres, que chaque courant vient détruire ou démentir le précédent. Aux États-Unis, on a vu des gens accéder à une célébrité d'une manière extrêmement rapide, ce qui n'arrivait pas autrefois, et descendre non moins rapidement dans l'oubli. Ce qui est naturellement fâcheux pour la création et pour les artistes.
Mais vous avez exposé de nombreuses fois dans les maisons de jeunes et de la culture. C'est même l'un des endroits essentiels où vous ayez exposé. Mais alors là, par exemple, dans les maisons de jeunes et de la culture, ça s'appelle maison de jeunes et de la culture. Là, est-ce que les barrières de contact, une fois rompues, le problème reste le même ?
Mais d'abord, les barrières de contact rompues, ça n'est pas tout à fait vrai. Ce qui s'est passé, si on fait le bilan de l'action culturelle aujourd'hui, c'est un bilan extrêmement positif. Je le trouve, moi, irremplaçable. Beaucoup de villes qui parfois se plaignent du prix élevé de la culture, ce qui est faux. D'ailleurs, en particulier l'art est indiscernable sur un budget général. On peut dire que la plupart de ces villes, lorsqu'elles font un bilan honnête, constatent que les progrès de la culture se sont faits dans une catégorie sociale déterminée, dans la classe moyenne, mais que la classe ouvrière même dans les lieux où c'est la vocation précise de la maison de la culture ou des animateurs, la classe ouvrière et la paysannerie, à plus forte raison, ont très peu accès à la culture, mais ça on le sait. Donc je ne me fais pas d'illusions exagérées dans ce domaine. Ce que je pense, c'est que pour qu'il y ait le maximum de stimulation à la création, il faut qu'il y ait de multiples instances d'exposition, de multiples instances de légitimation et de multiples instances payantes. Donc je ne suis pas contre le fait que les galeries existent. Je pense qu'il est très dangereux de faire en sorte que le marché de l'art soit le seul opérateur. Car ce marché dépendant du marché en général, donc de la structure socio-économique, eh bien les artistes se trouvent prolétarisés comme les autres. Et en ce moment, il y a un chômage fantastique qui n'apparaît pas parce que nous n'avons pas les moyens de faire apparaître le phénomène de chômage. Mais il y a une difficulté qui est absolument lié à ce que je vous décris comme phénomène. Alors je pense qu'une des alternatives possibles, et il en est sans doute d'autres, est le développement de l'action culturelle.
Mais comment expliquez-vous le fait donc, que le monde ouvrier, le monde paysan soit coupé?
Vous savez, les explications, je ne serai pas le premier, elles abondent. N'allons même pas chercher le monde paysan et ouvrier. Lorsque Bourdieu a fait des enquêtes sur la fréquentation des musées, et il a fait une enquête extrêmement précise et sérieuse qui faisait apparaître la disparition, enfin qui faisait apparaître l'absence quasi totale des ouvriers et des paysans.
Mais là, il faut déjà franchir le premier mètre, là.
S'il s'était posé la question de gens qui l'ont franchi le premier mètre, c'est-à-dire de gens qui sont déjà à l'intérieur du musée, et je ne sais pas si ça a été fait, mais qui est plus étranger à l'art que les gardiens de musée, qui sont toute la journée dans les musées? Qui est plus étranger à l'art que les gens qui habitent une rue où les galeries se touchent, comme la rue de Seine à Paris?
Mais par exemple, il vous arrive, lorsque vous êtes exposé dans une galerie ou un musée, que le gardien qui est là dans la pièce ne sache même pas que c'est vous qui êtes l'auteur
de... Si le gardien le sait, parce que moi j'ai souvent eu le souci un peu, parce que j'ai mauvaise conscience, et puis peut-être parce que je suis un peu démagogue, de prendre contact avec lui gentiment, mais ça ne sert pas à grand-chose. Aucune formation n'est faite, le recrutement des gardiens, par exemple, est fait sur des critères tout à fait autres que leur critère d'aptitude à juger de l'art ou à le comprendre, ou à l'aimer. Et le simple contact ne suffit pas. C'est un ensemble dans lequel apparaîtraient les phénomènes culturels diffus, ce qu'on appelle la culture d'ambiance, celle du milieu, les préoccupations en général, les réponses du milieu, le fait d'acquérir un langage. Les gens se plaignent lorsqu'ils ne connaissent pas l'art contemporain en disant « nous n'avons pas acquis de langage sur l'art contemporain ». La pratique, qui est aussi un des moyens d'accéder à l'art, ça suppose du temps, des loisirs, une autre organisation du travail, d'autres finalités à la société. Je ne veux pas vous embarquer dans un projet politique au lendemain d'élections.
On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais vous-même, vous avez été à un moment donné tenté par l'action culturelle.
Mais je suis toujours tenté par l'action
politique. La question s'est posée pour vous de savoir si vous aviez adopté le statut d'animateur culturel. Vous ne l'avez pas fait.
Non, ça, lorsque...
Dans les années 67, non?
Oui, lorsque la question m'a été posée, je me suis rendu compte très rapidement que je n'y tiendrais pas, que je m'y ennuierais et que je ne fonctionnerais pas très bien. Je préfère être un incitateur, ici ou là, de temps en temps, un déclencheur, un provocateur, s'il le faut, plutôt que quelqu'un qui assume le travail ingrat. J'ai là une idée de moi qui rejoint un petit peu l'aspect mythomane que vous donniez au départ et qui ne m'a pas fait protester sur le champ. Mais je fonctionne de cette manière. Je ne me sens pas très bien lorsque je dois refaire... La situation la pire me paraît être aujourd'hui celle des pédagogues, par exemple, qui assument la crise de la culture, je pense aux enseignants en général, et qui sont obligés de l'assumer tous les jours et à qui on fait porter le chapeau d'une situation absolument intenable, c'est-à-dire d'enseigner une chose qui est complètement mouvante, à laquelle plus personne ne croit, et de l'enseigner d'une manière qui devrait être stable dans une institution, rester relativement stable.
Vous disiez donc que vous préfériez être un incitateur. Lorsque vous avez été l'un des... Vous étiez cinq, hein, c'est ça?
Malassis.
Les Malassis.
Coopérative de Malassis, oui. Je dis Fleury,
Fleury, Latil, Paré, Tisserand et vous.
Et c'est très bien que vous les citiez, parce que j'en avais oublié un, et j'aurais des coups de téléphone après à la maison.
Oui, alors ça, c'est cette coopérative, pour vous, ça représentait quoi? Parce que c'est quand même très rare de voir des peintres
ça existe.
Ayant nous, pignon sur eux,
nous,
vous aviez
non,
tous...
Nous n'étions pas les premiers, il y a eu d'autres peintres en France qui ont fait ce genre de tentative, mais c'est vrai que c'est un groupe qui a voulu expérimenter la fusion des activités habituellement réputées comme strictement personnelles à l'intérieur d'une pratique, d'une véritable pratique de groupe. C'est-à-dire que nous sommes mis ensemble, nous avons fait des travaux sans savoir ce que nous allions faire, et en pratiquant totalement en groupe, c'est-à-dire en abandonnant pour chacun d'entre nous l'aspect individuel de la pratique.
Mais est-ce que la peinture s'est faite en groupe, je veux dire, l'exécution?
L'exécution s'est faite en groupe.
Le Grand Méchoui est un travail
le
de groupe.
Le Grand Méchoui s'est fait en groupe, l'Appartement songe s'est fait en groupe, et le 11 variations sur le thème du radeau de la Méduse, les fresques géantes de Grand Place à Grenoble, se sont aussi pratiquées en groupe. Et jamais d'une manière simple, c'est toujours très difficile, mais c'est très certainement une expérience fascinante. On y apprend beaucoup de choses.
Et renouvelable?
Renouvelable, c'est-à-dire la coopérative en question existe, mais c'est toujours très difficile de faire fonctionner ce genre de groupe, parce que des conflits apparaissent, des lassitudes apparaissent, et ensuite tout nous divise. Le marché de l'art nous divise, nous sommes différents, nous avons des situations différentes.
Et des codes différentes.
Des codes différents, c'est vrai, mais des cotes différentes, oui, bien sûr. Encore que ça soit pas le plus évident, mais le quotidien nous divise. Ensuite, nous n'étions pas si jeunes au point de pousser l'expérimentation du collectif autant qu'ont pu le faire d'autres jeunes, qui ont d'ailleurs, pour certains, aussi échoué, mais échoué d'autres manières, sur d'autres plans.
La question de notre invité d'hier, Jean-Dominique de La Rochefoucauld.
Vous êtes peintre? Et il y a une chose qui me préoccupe beaucoup, au fond, en ce qui concerne la peinture et la musique. Ce sont des disciplines auxquelles j'ai beaucoup réfléchi, que j'aime beaucoup, qui m'émeuvent profondément. Et c'est... la peinture, c'est une certaine manière de mettre en scène le silence, de même que la musique. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Pendant... longtemps, je me suis senti très étranger et à la musique et à cette question. Et puis, je me suis rendu compte, il y a quelques temps, que ma peinture jouait beaucoup trop sur le simulacre et sur l'artifice. Et qu'il me fallait restituer le support, c'est-à-dire accepter de mettre en évidence les moyens qui m'ont servi à établir l'œuvre. Et mon silence à moi, dans la peinture, c'est le blanc du papier, ou c'est le blanc de la toile. C'est l'interruption du signe. C'est le fait de faire apparaître l'espace du papier. Et quand on dit l'espace, on n'est pas loin de la notion de temps. Et quand on dit temps, on n'est pas loin de la notion de musique. Je pense donc que pour moi, le silence... c'est la surface blanche du papier ou la surface blanche de la toile. Et la faire émerger obéit non seulement à une loi plastique qui m'intéresse, mais presque à une sorte d'éthique. C'est-à-dire ne pas faire du trompe-l'œil, moi j'appelle ça du trompe-l'âme, mais montrer que de la peinture, c'est d'abord de la peinture, c'est-à-dire un certain nombre de signes sur un certain type de support utilisant un certain matériau, c'est une fiction, et ce qu'on a à y dire, on a à le dire à l'intérieur même de cette fiction. Et naturellement, les gens ont toute possibilité, par leur sensibilité et leur fonctionnement, de déborder le cadre même de cette fiction.
Vous parliez d'éthique, mais peindre pour vous, c'est à la limite plus que cela, c'est un véritable engagement politique quotidien.
Vous savez, je ne pense pas qu'on puisse vivre toutes ces activités séparées si on regarde autour de soi, si on est vivant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On ne peut pas se couper en morceaux. L'engagement politique, à condition, et j'en prends de plus en plus conscience, de maintenir la politique, je parle de la politique qui est militante et qui transforme le monde, dans des limites relativement strictes. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'organisation de la cité, des hommes dans la cité, dans leur rapport de classe, dans leur rapport à l'économie, et pour moi très peu au-delà, et de moins en moins au-delà, et effectivement je suis politique. Mais déjà, aborder cette question-là, c'est considérable. Et on s'aperçoit que la peinture n'est jamais étrangère, pas plus claire en général, à ces rapports de classe.
Parti pris donc, Cueco, vous avez une exposition là en préparation, non? Mais pas de peinture, de dessin cette fois.
De dessin, elle est le 25 avril, je suis en train de chercher pour...
Consulte ton agenda.
C'est la galerie de dessin, 43 rue de Verneuil.
Merci Cueco pour ce mot à mot et merci à tous d'être avec nous et bonne journée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 mars 1978. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Feliz quem como Ulisses teve uma bela viagem. Feliz quem como Ulisses viu finitas paisagens e então encontrou. Após muito caminhar, um país de sonhos verdes. Num amanhecer de verão, quando o sol vos canta o coração, como é bela a liberdade, quando aqui estamos melhor. Abatidos de sol e de vento.